Salut, ici Ziad Malouf de l'Atelier des médias. Dans quelques jours, c'est le 8 mars, journée mondiale de la femme. Marie Kirschen est femme et journaliste. Elle travaille pour BuzzFeed à Paris.
J'ai toujours trouvé mes poches de pantalons, de jeans, un peu trop petites. C'est pas pratique, on n'a pas la place de mettre un carnet quand on est en reportage, des stylos. Enfin, juste d'utiliser ses poches, un peu comme je vois des hommes les utiliser. Et du coup, j'en discutais avec mes collègues, mais vraiment comme ça, sans raison particulière. On a fait un test avec mon collègue. C'est-à-dire qu'ils disaient, ah bon, vraiment? Enfin, ils étaient conscients que c'était peut-être potentiellement la tête plus petite, mais ils disaient, mais est-ce que c'est si embêtant que ça?
Le test en question consistait à mettre un téléphone intelligent dans la poche avant de leur jean respectif. Pour le collègue homme, l'appareil entre en entier. Pour Marie, le téléphone dépasse pour moitié au moins de sa poche.
J'étais consciente que mes poches n'étaient pas pratiques, mais j'étais pas consciente qu'il y avait une telle différence, que c'était à ce point-là. Et pareil pour mes collègues, ils étaient un peu surpris de voir que, ah ouais, vraiment, c'était pas pratique. Et donc, du coup, c'est comme ça que j'ai eu l'idée d'aller voir, en fait, genre faire une sorte de crash test dans les magasins et d'aller comparer la taille des poches, tout bêtement.
Direction les Halles, au cœur de Paris, Marie visite 6 boutiques et compare méticuleusement, photo à l'appui, les tailles de poches pour les jeans hommes et femmes. De retour au bureau, elle passe un coup de fil à Nathalie Ruel de l'Institut français de la mode qui lui explique que les femmes ont beaucoup de choses à porter, parfums, rouge à lèvres, maquillage, et qu'elles ont besoin d'un sac à main qui rend inutile la présence de poches.
Alors en l'occurrence, c'est pas du tout mon cas, et je pense que c'est possible, enfin c'est le cas pour certaines femmes, mais pas pour toutes. Et donc moi, mon point, c'est de dire, bah oui, mais pourquoi ne pas faire des poches grandes, et celles qui veulent les utilisent, et celles qui veulent pas les utiliser, prennent un sac à main, et chacun fait comme il veut, quoi. J'ai aussi appelé Christine Barr, qui est une historienne qui a beaucoup travaillé sur les vêtements et la manière dont ils sont genrés, enfin le pantalon, la jupe, etc. Et elle, effectivement, elle confirme que c'est vraiment le problème, c'est que le vêtement féminin est vu comme une parure, alors que pour les hommes, c'est plutôt vu comme quelque chose de pratique. Et c'est là que joue toute la différence, c'est que les femmes, on va faire quelque chose plutôt qui est très beau, qui tombe bien, où il n'y a pas effectivement des poches pas belles au niveau de la silhouette. Mais par contre, c'est pas pratique, voire c'est gênant, alors que les hommes, il y a des poches larges, des matières qui sont effectivement plus douces ou plus chaudes.
Partie d'une intuition sur une petite inégalité du quotidien, Marie Kirschen finit donc par rassembler assez d'éléments pour publier un court article sur la taille des poches. Son titre, il faut l'admettre un peu provocateur et partisan, est, je cite, « J'ai vérifié les poches pour hommes et femmes de 6 magasins et on se fait arnaquer ».
Et donc après, on a publié le papier un dimanche, vers midi, je crois, comme ça. Et bah au début, j'ai plutôt eu des bons retours, en fait. J'ai eu plutôt des filles qui me disaient « Ah oui, complètement, merci d'écrire ce papier, moi aussi, ça m'a toujours énervée ». Ou des personnes qui me disaient « Ah, j'avais jamais trop réfléchi à ça, mais maintenant que tu le dis, c'est vrai que, effectivement, c'est embêtant ». Sur le Facebook de BuzzFeed, donc où on a posté le papier, il y avait une sorte de débat, c'était assez marrant à voir, mais débat assez poli en fait, où voilà, c'était ça, il y avait des filles qui disaient « mais complètement », d'autres qui disaient « mais non, quand même, on n'a qu'à prendre des sacs, c'est pas grave », d'autres qui disaient « oui, mais si tu veux pas prendre des sacs, enfin c'est pas pratique », enfin voilà, c'était assez positif en fait, que les gens discutent là-dessus. Et le dimanche soir, j'ai commencé à avoir des tweets qui n'étaient pas très sympas.
J'imagine ce que certains d'entre vous pensent en ce moment. Sous prétexte de journée de la femme, il ne va tout de même pas nous parler de taille de poche de jean et d'articles légers au titre provocateur. Eh bien si, je vous en parle parce qu'aussi étonnant que cela puisse paraître, l'aventure de Marie Kirschen avec ce petit article sans prétention va prendre une tournure sidérante. Si vous nous écoutez avec des enfants dans les parages, c'est le moment de mettre des oreillettes ou de baisser sérieusement le volume, j'insiste, car nous avons décidé de ne pas biper des mots, des expressions d'une immense grossièreté.
Donc j'ai commencé à avoir des messages le dimanche soir qui n'étaient pas très sympas, mais j'étais me coucher, voilà, le lundi matin, effectivement ça a continué à avoir des messages vraiment pas sympas. À l'heure du déj, par contre, ça a été vraiment, genre ça a pris énormément d'ampleur, et j'ai reçu beaucoup de messages, bah, par exemple, va t'habiller au rayon homme et casse pas les couilles grosse pute, tu trolles pour rien. J'ai envie de t'enculer. Ferme ta gueule et fais-toi pousser un pénis. Sale taré, va te faire soigner avec tes poches, sale triso. Pas mal de sales putes. Un autre qui dit qu'il y a de la place dans ta chatte, normal. On s'en balègue, prends ton sac à main de pute et fais pas chier, salope. ou en, ouais, en capital, ferme ta gueule, on s'en bat les couilles. Ouais, un autre qui parle de féministe en manque de queue. Quelqu'un qui m'a dit suicide-toi.
Pardon aux oreilles sensibles que ce vocabulaire inconforte. Nous avons choisi de vous faire entendre ces mots car ces insultes sont publiques, visibles, lisibles de toutes et tous, en clair, sans filtre, sur les réseaux sociaux. C'est le site Slate.fr qui a le premier tiré l'alarme sur les injures qu'a reçues Marie Kirschen pour son article sur la taille des poches de pantalon. En lisant ce récit, comme beaucoup, je suis restée sans voix. Comment peut-on écrire des mots si graves, si violents, si néfastes pour réagir à un billet d'une telle légèreté? En écoutant Marie lire ses messages et en observant ses réactions, je suis frappé par son sang-froid, son calme, sa distance. Il faut dire qu'en tant que journaliste spécialisée dans les questions d'égalité homme-femme, elle est loin de tomber des nues.
Sur ce sujet-là, je m'y attendais. Déjà parce que c'est un sujet qui parle de féminisme, droits des femmes, et que c'est un sujet qui est un peu... Enfin, qui attire des fois certains internautes twittos qui aiment bien un peu tacler ces sujets-là, y compris de manière un peu insultante. Donc je savais. Donc il y a l'aspect que c'est une question sur le féminisme, mais il y a aussi le fait que effectivement que ça peut paraître comme futile et que de toute façon sur les questions de droits des femmes, il y a un discours qui revient toujours, qui est ah mais pourquoi est-ce que vous vous intéressez pas au vrai sujet? Et en fait, il y a toujours un sujet plus grave. C'est-à-dire que quand c'est les poches, on va me dire pourquoi vous vous intéressez pas aux égalités salariales. Quand on va s'intéresser aux égalités salariales, on va vous dire mais pourquoi vous vous intéressez pas au viol. Quand on va s'intéresser au viol, on va dire non mais bon, ça c'était pas vraiment un viol. Le vrai problème, c'est les femmes en Afghanistan. Enfin, il y a toujours quand même un discours qui revient où on nous engueule parce que les journalistes qui travaillent sur ces sujets-là, on s'intéresse pas au bon sujet. Donc je m'attendais à ce qu'il y ait des retours négatifs. Je m'attendais vraiment à ce qu'on me dise bah oh là là encore. Enfin, je m'attendais à ce qu'il y ait des retours sur ce papier pas positif à qu'on me dise voilà, que c'est un sujet inutile, mais je m'attendais pas à ce qui est d'une telle ampleur et aussi violent, parce que c'est vrai que enfin on peut ne pas être d'accord, on peut me dire qu'on s'en fout de cette histoire de poche, mais enfin déjà en plus c'est un papier qui était écrit à la première personne, enfin je raconte bien que c'est ça m'embête moi, donc ça on peut pas m'enlever que ben, ça m'embête moi, et surtout ouais, je pensais pas qu'il y aurait une telle un tel truc haineux pour juste un papier sur les poches quoi.
L'atelier des médias, Ziad Malouf. Bienvenue dans le 21e siècle, bienvenue dans l'atelier des médias spécial 8 mars. À celles et ceux qui doutent de la pertinence de consacrer une émission aux femmes, à des projets féminins, l'histoire de Marie Kirschen peut servir de rappel. L'injure publique et misogyne est aujourd'hui banalisée au point que ses victimes, comme Marie, ne songent même plus à porter plainte.
Pour ce cas-là, j'ai pas eu l'envie parce que, pour avoir travaillé dessus, je sais que c'est un sujet sur lequel la police et la justice sont pas franchement au top, pour le dire poliment. Et que souvent c'est compliqué pour les personnes qui sont cyberharcelées d'aller voir des policiers, d'aller au commissariat pour dire je veux porter plainte, et qu'elles sont souvent reçues par des policiers qui comprennent pas trop en quoi c'est un problème ou qui trouvent que c'est pas si grave de se faire traiter de sale pute. Et pareil, la justice est pas toujours efficace parce qu'il y a. C'est pas une personne, c'est des dizaines, voire des centaines de personnes qui tweetent et elles sont compliquées à identifier, à retrouver. Donc c'est pas les cas les plus simples pour la justice. C'est vrai qu'il y a un côté un peu frustrant de, du coup pour la personne qui va porter plainte, de perdre son temps, d'éventuellement perdre de l'argent si vous prenez un avocat. Enfin je dirais pas qu'il faut jamais le faire et que ça ne sert à rien, ça peut servir et il y a des cas où effectivement ça sert et tant mieux.
Bien entendu, nos sociétés, nos perceptions, nos réflexes ont encore du mal à s'adapter aux nouvelles réalités communicationnelles. J'ai la conviction que dans quelques années, les comportements dont a été victime Marie Kirschen et dont souffrent les défenseurs ou les analystes de toutes sortes de causes clivantes, ces comportements ne resteront pas impunis et par conséquent se raréfieront. Mais bon, c'est certain, il reste encore du chemin à parcourir, notamment dans les mentalités.
T'aimes te faire belle, oui, t'aimes briller la night. T'aimes les éloges, t'aimes quand les hommes te remarquent. T'aimes que l'on pense haut et fort que t'es la plus. Oh, je ne dirai rien. T'aimes te faire belle, oui, t'aimes briller la night. T'aimes les éloges, t'aimes quand les hommes te remarquent. T'aimes que l'on pense haut et fort que t'es la plus. Oh, je ne dirai rien.
Toi tu sais fertile, un manque t'es fraîche. Vends des mecs fauchés, tu te prends pour les fraises. Négro c'est pas une meuf au what. Est-ce clair? Tu veux la gérer sans gamoust? Espère. Seulement 15 000 abonnés sur Instagram. À moitié dénudée, t'es prête à tout pour plaire. T'aimes pas mon son mais tu veux ton passe backstage. T'aimes pas les canards mais t'enchaînes les dead face. Et tu me dis pourquoi je trouve pas de mec bien. Pourquoi les mecs se comportent tous comme des chiens? Parce que t'es stupide, matériel est stupide. Stupide, stupide, stupide.
Ce que je veux vraiment, au fond de moi, c'est arriver à un moment où, quand on dit je suis féministe, il n'y a plus personne qui te répond d'une manière ou d'une autre « Ah mais en fait t'as des poils sous les bras, ah non mais en fait t'es lesbienne, mais pour de vrai, genre t'es féministe mais quoi, c'est parce que tu t'es faite larguer, c'est ça le problème ?» Ou encore « Ah non mais c'est bizarre quand même, tu devrais pas trop le dire hein, que t'es féministe parce que bon, enfin, si jamais tu veux arriver quelque part... Voilà, et c'est un peu tous ces a priori sur le féminisme que j'essaye vraiment de dégommer et d'arriver à un moment où le dire je suis féministe, bah, c'est pas un gros mot, c'est pas quelque chose dont quelqu'un devrait avoir honte, c'est juste le fait de vouloir revendiquer une égalité entre les femmes et les hommes. Rien de plus.
Elle, c'est Rebecca Amsalem. Elle a lancé il y a un an et demi une infolettre gratuite et féministe qui rassemble aujourd'hui plus de 40 000 abonnés. Son nom, Les Glorieuses, un courriel hebdomadaire qui propose un texte engagé et une revue de presse. Rebecca Amsalem est au micro de Marie-Stéphanie Servos.
L'idée de départ, c'était vraiment de se dire que ce soit la politique, que ce soit l'amour, que ce soit le sexe, peu importe, sur toutes les thématiques, on en est arrivé à un point où les femmes se sentaient coupables de ne pas ressentir tel ou tel sentiment, de ne pas ressembler à telle ou telle personne, de ne pas faire tel ou tel métier. Et la vocation des Glorieuses, c'est vraiment de dire... Finalement déjà, un, faites ce que vous voulez, faites ce que vous faites, c'est déjà formidable, vous êtes des personnes formidables et nous, ce qu'on fait, c'est des éditoriaux toutes les semaines, donc tous les mercredis dans la lettre d'information et donc on va traiter de plein de thématiques différentes, chaque semaine est dédiée à une thématique, par exemple la semaine dernière j'ai parlé du féminisme et des sorcières et comment est-ce que les sorcières avaient dans la culture populaire avaient aidé notamment les féministes et qu'elles étaient d'ailleurs parmi les premières féministes quand on y pense. Et après chaque éditorial je fais une revue de presse internationale en disant bah, ça c'est de cette manière que je pense cette thématique mais finalement il existe plein d'autres avis et plein d'autres points de vue sur la question qui sont tout aussi intéressants. Et c'est à vous, en tant que lectrice et lecteur, puisqu'on a quand même 15% des abonnés qui sont des hommes, c'est à vous de faire votre propre avis sur la question. Nous, on est juste là pour vous proposer différents points de vue.
Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer Les Glorieuses ?
Bon, en fait, j'ai pensé depuis un bout de temps hein, de faire quelque chose sur les féminismes. Je ne savais pas quoi. L'idée, finalement, c'était... plutôt d'envoyer ce mail et ces réflexions que je faisais déjà personnellement peut-être à plus de personnes et voir si éventuellement plus de personnes étaient intéressées. Mais l'objectif et pourquoi j'ai vraiment créé ces Glorieuses, en gros je pense que c'est la newsletter que j'aurais bien aimé lire. C'est la newsletter, la lettre d'information que j'aurais bien aimé recevoir, que ce soit maintenant ou quand j'étais plus jeune, quand je me posais peut-être plutôt au début de mon engagement pour le féminisme. L'idée, c'est vraiment de donner aux femmes ce sentiment de puissance qu'elles doivent ressentir parce que c'est des personnes qui sont de manière inhérente puissantes. C'est des personnes qui, pour certaines, donnent la vie et ou d'ailleurs ont des entreprises. Et l'idée, en fait, c'est juste de leur redonner la gloire qu'elles n'ont pas forcément dans notre société actuelle.
En 2015, tu as publié un manifeste pour inciter les femmes à aller voter contre le Front National. C'est à ce moment-là que, enfin, la première fois que le nombre de tes abonnés a explosé. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ?
Ben, en fait, l'idée, c'était plutôt que les femmes se rendent compte de la dangerosité du Front National. C'était au moment où on avait Marion Maréchal Le Pen qui... n'hésitez pas à remettre en cause les financements régionaux pour le planning familial si elle était élue, parce qu'elle disait ouvertement qu'elle était contre l'avortement. Et en fait, donc c'était quelque chose qu'on savait déjà, mais dont on a la confirmation, notamment grâce aux différents projets qu'on a menés après. Le Front National est un parti qui est dangereux pour les droits des femmes, malgré le fait qu'il soit dirigé par une femme et le fait que médiatiquement ce soit deux femmes qui sont souvent représentées sur l'étiquette du Front National. Et c'est en ça qu'il est dangereux en plus, parce que ça montre deux femmes qui sont deux femmes jeunes. Contre toute attente, ces deux femmes font extrêmement de mal à la cause des femmes. Elles ne vont pas hésiter à voter contre toutes les mesures, comme je te l'ai montré tout à l'heure, sur la plateforme « Les femmes ont le pouvoir ». On a vu que Marine Le Pen vote systématiquement contre toute possibilité d'avancer pour les droits des femmes. On ne peut pas se dire féministe d'un côté et d'un autre côté faire exactement le contraire dès qu'on le peut.
Le Front National n'est pas le seul parti auquel les Glorieuses s'intéressent. À l'occasion de la campagne présidentielle française de 2017, Rebecca et son équipe ont lancé une plateforme appelée « Les femmes ont le pouvoir ». On peut, sur ce mini-site, comparer les positions et programmes des principaux candidats à la magistrature suprême sur les questions de droits des femmes et d'égalité. Forte de son audience, en tout cas, l'équipe des Glorieuses s'implique dans des combats liés à la place de la femme dans la société française, présence plus importante d'expertes dans les médias ou encore disparité salariale homme-femme. Bien sûr, pour toutes ces batailles, les Glorieuses se servent des outils et des codes du web social.
Alors en fait, le mot-clé qui est le hashtag du 7 novembre 16h34 est une idée effectivement qu'on a lancée sur Internet en novembre dernier. En fait, c'est parti d'une interrogation et plutôt d'une curiosité. Les Islandaises avaient quelques jours plus tôt déposé, elles, un préavis de grève pour manifester dans la rue contre l'inégalité salariale, alors que l'Islande, d'ailleurs, est un des pays en Europe et dans le monde où cette inégalité est la plus faible. Donc j'ai trouvé ça très intéressant que même elles, qui sont beaucoup plus proches de cette égalité salariale que nous, finalement continuent à se battre et finalement pour arriver vraiment à une égalité parfaite entre les femmes et les hommes. Et l'idée, en fait, cette curiosité, je me suis juste demandé à partir de quand est-ce que les femmes en France devraient arrêter de travailler du fait de cette inégalité salariale. Et donc j'ai repris le chiffre qui était le même de la même base de données que les Islandaises avaient pris, qui est Eurostat. Et donc sur cette base de données, on peut voir notamment que cette inégalité représente environ 15% en France. Et de là, ça m'a donné finalement cette date assez emblématique, plutôt symbolique qu'emblématique d'ailleurs, du 7 novembre 16h34. Et donc j'ai écrit une newsletter dessus, sur cette inégalité salariale.
Ça a donné lieu ensuite à un gros mouvement en France. Tu ne l'avais pas anticipé ?
Est-ce que j'ai anticipé ? Non. Vraiment pas. Enfin, l'idée, c'était pas vraiment de... Enfin, j'écrivais une newsletter comme toutes les semaines, et disons que celle-ci a eu un peu plus de retentissement que les autres. Mais en fait, je suis vraiment ravie que cette question ait généré un intérêt aussi grand. Et ça montre que finalement, un, les féminismes ne sont pas morts en France, qu'une grande partie de la population française est féministe, et encore là, est prête à se battre pour cette égalité, que ce soit l'égalité salariale ou d'autres égalités que nous devons acquérir.
C'était Rebecca M. Salem, fondatrice de l'infolettre féminine et féministe Les Glorieuses, au micro de Marie-Stéphanie Servos. À suivre dans la deuxième partie de l'émission, Zero Impunity, un projet de journalisme et d'activisme qui informe et lutte contre les violences sexuelles dans les conflits armés, violences infligées aux femmes et aux enfants en tout premier lieu, mais également aux hommes. Nous en parlons dans un instant. À tout de suite. Zéro Impunity, zéro impunité, c'est le nom d'un site et d'un dispositif lancé il y a quelques semaines et qui court jusqu'à la fin du mois de mars. Zéro impunité s'intéresse aux crimes sexuels dans le cadre des conflits armés. Ses initiateurs, initiatrices ont choisi de mêler journalisme et activisme d'une manière originale puisqu'on peut sur leur site découvrir de longues enquêtes sur les violences sexuelles dans les guerres, mais on peut également y signer et partager des pétitions pour lutter contre l'impunité de ces crimes. Pourquoi avoir choisi de mêler journalisme et activisme? Ces deux univers font-ils d'ailleurs bon ménage? Pour répondre à ces questions et en savoir plus sur Zero Impunity, l'atelier reçoit aujourd'hui quatre des porteuses et porteurs de ce projet.
Today, civilians are the first victims of armed conflicts. Public mass rapes, sexual slavery, contamination by HIV, forced pregnancies. All these are weapons deliberately used in conflicts to terrorize populations, annihilate or subjugate communities. It strikes ethical and religious groups, or simply communities, to be displaced. Beyond the destruction of the individual, it is the group as a whole that is targeted. Silencing the opposition, displacing populations, humiliating a community, wiping out an ethnic group, rewarding soldiers, altering the ethnic composition of the following generations. These abuses are rendered all the more pernicious by the impunity in which the perpetrators operate. Whether they are carried out by Boko Haram, ISIS, the Syrian armed forces, the French army, or American military, the immunity surrounding these acts continues because a community chooses to remain silent. Taboos and omerta are, to this day, the stumbling block to justice.
R.F.I. Bonjour Nicolas Bliss.
Bonjour.
Bonjour Stéphane Meubert-Bliss.
Bonjour.
Vous êtes frère, accessoirement, et cofondateur de la société Aban, qui produit Zero Impunity. Vous pouvez nous expliquer ce qu'est ce projet dont vous êtes aussi les auteurs. Nicolas.
Alors ce projet, c'est effectivement, on a souhaité allier investigation et activisme pour travailler et pour lutter contre l'impunité des violences sexuelles en zone de conflit. Nous, on a voulu vraiment, en fait, travailler un dispositif multimédia, transmédia, pour être plus précis. Et on a réfléchi, en fait, ce dispositif comme une arme. Une arme médiatique pour éveiller et pour indigner et ensuite pour engager l'audience sur cette problématique. Et pour nous, voilà, c'était vraiment fondamental de travailler aussi bien sur le fond que sur la forme et d'aller chercher l'audience sur ces sujets-là.
Stéphane ?
C'est également une arme pacifique. Nous, à la base, enfin, c'est important pour nous de le préciser parce que on est sur des demandes concrètes et des demandes positives. On est là pour faire avancer les choses. On n'est pas là pour critiquer, pour mettre en jugement, etc. On est là pour faire avancer. La base de ce projet, c'est quand, effectivement, on s'est déplacé, nous, en tant qu'auteurs au Rwanda, pour rencontrer, effectivement, pour suivre, à la base, effectivement, une journaliste qui traitait le sujet. Et on a eu l'occasion de rencontrer des survivantes du génocide et donc également des victimes de violences sexuelles. Elles nous ont dit quelque chose qui à l'époque nous avait énormément marqué, puisque en libérant leurs paroles, elles se mettent naturellement en danger, puisque les assaillants souvent habitent à 5 km, 10 km, et sont libres, puisqu'il n'y a pas, il y a de l'impunité. Donc elles nous ont dit que si elles libéraient la parole aujourd'hui, on a l'obligation, nous, de les faire entendre, de faire entendre cette parole. C'était primordial. Et on s'est dit que donc un documentaire ne suffisait pas, qu'il fallait lui associer une arme, comme le disait tout à l'heure Nicolas, une arme médiatique pacifique pour que cette parole soit entendue.
Et du coup, au lieu de faire une œuvre, un documentaire par exemple, vous avez choisi de mettre en place un dispositif que vous pouvez peut-être nous décrire, nous expliquer ?
Alors, le dispositif, Nicolas. Ouais. Donc, d'une part, le cœur, la matière première, si vous voulez, de ce dispositif, ce sont des enquêtes donc d'investigation. On a fait appel donc au collectif YouPress,
qui est un collectif de journalistes.
De journalistes, indépendants. Alors, ça c'était très important pour nous de travailler en toute liberté, tous ensemble, pour justement aller chercher et travailler sur les questions qui fâchent. Donc voilà, au cœur, il y a ces 6 investigations. Donc, on a travaillé sur plusieurs terrains.
Vous êtes les auteurs, donc c'est vous qui avez choisi les sujets.
Alors nous, on est venu avec les propositions de sujets et sur une certaine vision globale, et ensuite avec l'équipe, on a regardé si ces sujets-là faisaient sens, s'il fallait les préciser, s'il fallait travailler sur d'autres aspects, et donc on est arrivé au résultat de 6 enquêtes.
6 enquêtes, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que vous avez financé des journalistes pour qu'elles, puisque ce ne sont que des journalistes femmes qui ont travaillé dessus, elles aillent sur le terrain. Comment ça s'est passé?
Effectivement, Stéphane. Oui, c'est important de le préciser, c'est que c'est un collectif de journalistes femmes. C'est important pour nous aussi que ce soit fait dans ce sens-là.
Alors, YouPress n'est pas un collectif féminin. Il y a des hommes, femmes dans YouPress. Mais là, voilà. Le collectif qui a travaillé sur le projet, ce sont que des femmes.
Ce sont que des femmes. Justine, on est également l'une d'elles.
On va présenter Justine et Sarah que vous avez mentionné.
Voilà. Et donc, c'est un collectif de femmes. Et oui, donc après, pour le choix des contextes et des, on s'est aussi beaucoup appuyé sur le collectif et sur les différentes journalistes avec leur propre envie également, leur propre expérience aussi. Justine est une spécialiste quand même de l'Afrique noire, etc. Donc je pense qu'elle a, elle avait naturellement elle plus d'envie d'aller vers certains sujets. C'était important aussi pour nous de respecter cette dynamique là.
Voilà. Et donc ça, ce sont les enquêtes. On va y revenir. À ces enquêtes, vous ajoutez de l'activisme. Pourquoi avoir voulu mêler ces deux facettes, l'activisme et le journalisme?
Pour nous, c'est important. Pour nous, une enquête, ça permet de démontrer, de décrypter, de comprendre, donc d'éveiller les consciences. Mais vous savez, c'est quand on est face à des événements très très forts, émotionnellement forts, on a dans notre cerveau, il y a une sorte de disjoncteur comme ça qui se bloque, enfin qui disjoncte, et du coup, on ne sait plus quoi faire. Et là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour permettre à l'audience d'être frappé, d'être indigné, mais ensuite de pouvoir réagir et de pouvoir exprimer quelque chose. Donc, on s'est dit que effectivement, on avait besoin de formuler des demandes concrètes et d'engager l'audience sur ces demandes. Donc, effectivement, on a mis en place un certain nombre de pétitions avec des demandes vraiment très concrètes et très simples. Si je prends le cas de la France sur l'opération Sangaris, on va demander essentiellement que des formations indépendantes soient faites aux militaires, dans les écoles militaires. Donc, c'est très accessible. Et ces pétitions-là, ensuite, donc on a fait un partenariat avec Change pour nous soutenir sur cette action. Et ensuite, on a voulu travailler à la viralité aussi de cet outil et une forme aussi de data visualisation de ces pétitions. Et donc, on a développé une marche en 3D, une marche digitale, qui est donc le troisième support du projet, qui permet en fait de prendre la mesure en termes d'ampleur de toutes ces signatures qu'on récolte.
Nous allons revenir sur cette marche. Le quatrième support, c'est un film d'animation, c'est ça ?
C'est un film d'animation, tout à fait, qui s'appellera également Zero Impunity, qui sortira normalement au mois de septembre. L'idée à travers le film, c'était de revenir un petit peu sur toutes les enquêtes, mais surtout de montrer le caractère systémique de l'impunité dans le cadre des violences sexuelles. C'est important pour nous que ça ressorte au-delà même de chacune des enquêtes.
Les enquêtes, les histoires, vous avez décidé de feuilletonner avec, c'est-à-dire de les publier au fur et à mesure. Au moment où nous diffusons, quatre histoires ont déjà été publiées. La dernière en date parle de l'ONU et de la manière dont l'institution gère les abus de ses employés. La précédente, en partenariat avec Mediapart, évoquait les viols d'enfants en Syrie, un crime de guerre méconnu du régime de Bachar el-Assad. Le sujet publié mi-janvier revient, lui, sur les violences sexuelles employées par l'armée et les services secrets américains pour torturer les personnes soupçonnées de liens avec Al-Qaïda. C'était au lendemain du 11 septembre 2001. Un mot sur ces sujets déjà, messieurs ?
Oui, voilà. Donc ça, c'est des sujets effectivement qu'on a choisi donc avec toute l'équipe de journalistes. Les résultats ont été extrêmement positifs. L'audience a été extrêmement réceptive sur ces différentes enquêtes, notamment celle sur l'enquête américaine et sur l'enquête sur l'armée française.
Nicolas, c'est important aussi de dire que c'est un projet international. Ouais. C'est un projet international. On a effectivement Mediapart en France.
Les enquêtes sont produites par vous, mais publiées par un média partenaire. Ouais. Parmi les médias partenaires, Mediapart en France, il y a également, je crois, Inkifada.
Inkifada en Tunisie. Le Desk au Maroc, on a Internationale en Italie, Infolibri en Espagne. Enfin voilà, on a environ une dizaine de partenaires. Important aussi, on republie ces enquêtes en langue arabe, ce qui était vraiment important pour nous. Donc c'est des enquêtes internationales pour un public international.
La première enquête publiée début janvier s'intéressait aux soupçons de viol et atteinte sexuelle de l'armée française en République centrafricaine dans le cadre de l'opération Sangaris. C'est toi, Justine Brabant, qui a signé ce papier. Bonjour.
Oui, bonjour. Je l'ai d'ailleurs co-signé avec une collègue qui s'appelle Leila Mignano.
J'allais le préciser, tu es journaliste indépendante. Tu as collaboré notamment au site Arrêt sur Image, RFI.fr. Mm-hmm. Je t'ai croisé dans les couloirs de la maison. Tu es par ailleurs l'auteur d'un livre sur les groupes armés dans l'Est de la République démocratique du Congo. Son titre est très joli. Qu'on nous laisse combattre et la guerre finira, il est paradoxal. Dans le cadre de Zero Impunity, ton reportage s'intitule « L'ADN de Sangaris ». Tu le signes donc avec Leila Mignano qui appartient au collectif YouPress. Un mot sur ce sujet, quelques mots ?
Sur ce sujet, alors bon, ce qui était intéressant, c'est dans la démarche d'Aban et des producteurs, c'est qu'ils sont venus à nous avec effectivement des suggestions de sujets, mais on a pu ensuite, en tant que journaliste, enquêter sur ce qui nous paraissait vraiment le plus important. Et donc le cahier des charges à l'origine était simplement de travailler sur l'armée française et les éventuelles exactions à caractère sexuel commises par l'armée française en opération extérieure. Et donc avec Leïla, on a commencé assez largement à travailler sur différentes opérations extérieures. On a reçu des témoignages intéressants et souvent très problématique concernant le Tchad, la Côte d'Ivoire, etc. Mais on a fini par se recentrer et l'enquête qui a été publiée chez Mediapart porte spécifiquement sur l'opération Sangaris en Centrafrique parce qu'elle nous paraît assez caractéristique de ce qui se passe quand l'armée française est déployée à l'étranger. Ce qui est caractéristique, c'est que des accusations de violences sexuelles émergent. La Centrafrique n'est pas une exception là-dessus. Mais surtout, ensuite, il y a, à notre sens et à l'issue de notre enquête, un vrai problème par rapport à la manière dont on les prend en charge. Parce que ce qui était important pour nous, c'était à la fois de collecter des témoignages de victimes, de personnes qui se disent victimes, mais ensuite d'enquêter sur l'enquête et de se dire quand ce type d'accusation émerge, c'est pas la première fois hein, concernant la Centrafrique qu'il y a des accusations sur Sangaris. Il y avait notamment eu un travail du Guardian il y a quelques années. Nous, on a voulu s'intéresser notamment à l'étape d'après, à savoir quand ces accusations émergent, qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'en France aujourd'hui, on est capable de les prendre en charge, de les traiter, d'aller jusqu'au procès éventuellement ? Alors la réponse est dans l'enquête, je vais pas la détailler, 40 000 c'est assez dense, mais l'idée générale est qu'on a de toute évidence pas un système judiciaire, enfin ni judiciaire ni de discipline interne à l'armée française qui permet de les prendre en charge et d'enquêter efficacement dessus.
Est-ce que c'est une expérience particulière pour une journaliste de participer à ce type de dispositif, d'être approchée par des gens qui vous disent bah, « il faut que tu enquêtes sur l'armée française et des exactions sexuelles ».
Bien sûr, je me souviens la première fois que Leïla m'a parlé de ce projet, elle m'a dit « quand même, c'est pas tous les jours qu'on se voit proposer de l'argent pour changer le monde ». Effectivement, on peut le résumer comme ça, on sait pas encore si on a changé le monde, mais en tout cas on aura essayé. Bien sûr, c'est une expérience particulière à plusieurs titres. D'abord, le fait d'avoir été un groupe d'enquêtrices. Alors, entre nous, on appelait ça immodestement le spotlight, en référence au film, en référence à l'équipe de journalistes américains qui avaient travaillé sur la pédophilie aux États-Unis. Pourquoi on utilisait ce nom ? C'était pas seulement pour rire et parce qu'on est très immodeste. C'est parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose de particulier au fait d'être ensemble sur des sujets, alors à la fois distincts et très complémentaire, puisqu'il y a la matrice fondamentale qui est la question des violences sexuelles. En fait, concrètement, on a été ensemble, donc Aban nous a donné les moyens d'être pendant 2 mois dans une même rédaction. Donc une dizaine de journalistes a travaillé sur ces sujets, on était physiquement dans le même lieu, ce qui faisait qu'à la fois on menait nos enquêtes indépendamment, mais on avait des occasions d'échanger en permanence et de s'apercevoir qu'il y avait des traits communs à ces mécaniques de l'impunité, qu'il y avait aussi des choses différentes, qu'il y avait peut-être des stratégies communes qu'on pouvait avoir comme journaliste pour enquêter sur ce genre de sujet. On avait des réunions régulières sur comment interroger des victimes de violences sexuelles, sachant que des gens comme Leïla Mignano par exemple ont une certaine expérience sur le sujet. Leïla a publié un livre sur les violences sexuelles au sein de l'armée française, donc elle a l'habitude d'accueillir ce type de parole. On a eu des réunions ensemble sur le syndrome de choc post-traumatique, puisqu'on s'est rendu, il y a par exemple une enquêtrice, Cécile Androjeski, qui s'est rendue en Jordanie, qui a recueilli des témoignages assez durs sur les enfants violés dans les prisons du régime de Bachar al-Assad. On a pu discuter ensemble de ce que c'était d'avoir un syndrome de choc post-traumatique, qui est quelque chose qui arrive parfois à des journalistes qui ont été confrontés à des récits assez durs, donc comment identifier les premiers symptômes et faire face. Voilà, il y a tout un tas de choses qu'il était intéressant de mutualiser aussi en tant que journaliste.
Il y a un volet activisme dans ce projet. Est-ce que toi, en tant que journaliste, ou est-ce que le collectif était à l'aise avec ça ?
Oui, je pense que on n'aurait pas accepté si on n'était pas à l'aise. Après, ça ne veut pas dire qu'on n'en discute pas et ouais. Que c'est pas l'objet de discussions très régulières avec le volet production. Je pense qu'il y a plusieurs choses. D'abord, on se fait pas d'illusions. On connaît chacun quel est notre métier. Nous, on est journalistes dans le cadre de ce projet. Ça veut dire que on documente et on enquête. On enquête sur un sujet particulier avec des pistes dont on a parlé au départ, des pistes de sur quoi il faut creuser, mais avec une autonomie absolument total. Par exemple, voilà, moi, je devais enquêter sur l'armée française. J'ai choisi que ce serait spécifiquement sur l'opération Sangaris. J'ai choisi d'aller faire un terrain de 10 jours en Centrafrique. J'aurais pu choisir d'aller faire un terrain de 10 jours au Tchad pour les besoins de cette enquête. Nicolas et Stéphane ont toujours respecté ça. Donc, on sait quel est notre métier. Nous, c'est documenté. Eux, ensuite, ils s'emparent de cette matière qu'on a récoltée dans les standards journalistiques normaux. Ils s'en emparent et ils le traitent avec leur regard d'auteur et de militant.
Oui, mais c'est différent de savoir qu'un papier qu'on va publier risque un jour de servir de base pour des pétitions ou pour voilà des jugements, etc. Et de commencer une enquête, sachant que par définition, ce papier va déjà servir de base pour une pétition. Ce sont deux choses différentes, non ?
Oui, mais je pense qu'il faut.
Est-ce que tu le dis par exemple à tes sources ? Est-ce que tu dis ce papier fait partie d'un projet où il va y avoir des pétitions, etc. ?
Oui. On explique à nos sources que ça fait partie d'un projet plus global qui va se questionner sur la question des violences sexuelles et qui sera notamment l'objet d'un documentaire et qu'on va réfléchir. Je vois que tu me fais un petit sourire un peu pas totalement convaincu, mais on peut en discuter. Et on explique à nos sources que ça donnera lieu à un film et à des mobilisations. Alors on détaille pas forcément jusqu'à quel point exactement, tout simplement parce que en fait il y a certaines sources qu'on ne va pas retrouver, des personnes qu'on interroge qu'on va pas retrouver dans le documentaire à la fin, qu'on va pas retrouver sur tous les supports sur lesquels le projet va se déployer. Donc c'est pas la peine d'informer absolument tout le monde de ce que ça va donner à la fin, mais lorsqu'il est question de faire des pétitions avec des informations particulières venant de certaines personnes ou lorsqu'il est question de mettre ces personnes dans un documentaire, on retourne vers elles en revérifiant avec elles qu'elles sont toujours d'accord. Ça c'est important. Et j'ajoute sur les garde-fous, mais les choses qui nous a paru importantes à nous comme journalistes, qu'on relie le script aussi du documentaire pour s'assurer que ce qu'on a récolté, cette parole, elle a été, notamment ces témoignages.
Du documentaire à venir,
pour s'assurer que voilà, quand ça a été retravaillé avec Stéphane et Nicolas en tant qu'auteur, ce qu'on a récolté est resté parfaitement fidèle. Après, je pense que ça amène une question plus large, qui est une question qu'on peut se poser au sein de l'atelier des médias en particulier. C'est quand on est journaliste et que ça va pas aboutir à une pétition. Je pense qu'il faut pas imaginer qu'on est parfaitement neutre et qu'on choisit des sujets comme ça et qu'on va se contenter de les traiter, point barre. Moi, je sais que quand je m'empare de sujets, même si c'est pas dans le cadre d'un grand projet où il y aura une pétition et une mobilisation à la fin, je l'ai choisi parce que j'ai envie de décrire telle ou telle portion du monde et la plupart du temps, c'est parce que j'ai envie de changer telle ou telle chose que je constate dans le monde qui marche pas forcément bien. Donc là, on ajoute certes une étape supplémentaire ensuite, qui est la mobilisation, mais je pense qu'il faut pas se faire d'illusions non plus sur le fait que quand il n'y a pas de mobilisation, on est de toute façon parfaitement neutre et on est de toute façon parfaitement... C'est un métier qui est fait aussi de choix.
Et on peut imaginer aussi que les sources dans ce type de sujet sont souvent des lanceurs d'alerte qui veulent justement sensibiliser les opinions publiques et qui, que ça bouge, quoi.
Oui, bien sûr.
Bora san saluta ni fila kono kamenya nina anga moku peka sa dungudu ko kele munte ban ode da bora antansi gikanda minesa kanga dikutu ka firu bolusa uko kubi normine kubi sudmine lise kunchete kuba nimine Dugu jera, lebora, uyu kalikute kidali segi auma Anga dugu beka chidungudu, surukudu nanga katahinana Anga mago beka murutisa, kuteka firijelasa Uko kubamfa umine, kubamba umine, kilisei kuncheka kubanda amine
Blackout. Bonjour Sarah Durieux.
Bonjour.
Tu es directrice des campagnes et de la communication de Change.org France. Change.org, c'est une entreprise américaine spécialisée dans les pétitions en ligne. Zero Impunity se présente à la fois, donc on l'a bien compris, comme une série d'enquêtes journalistiques et un mouvement. Ce mouvement est incarné par plusieurs pétitions partagées sur ta plateforme. Explique-nous.
Oui, en fait, Change.org, c'est une plateforme ouverte. Donc ça permet à chacun de lancer une pétition sur un sujet qui lui tient à cœur.
Sans contrôle de votre part.
Alors, pas a priori en tout cas.
Ouais.
Ce qu'on fait
pas
en fait.
Pas a priori, ça veut dire que les gens publient et après, donc a posteriori, vous pouvez contrôler ce qui a été.
Exactement, si c'est pas dans les limites de la légalité et des règles qu'on a pour l'utilisation de notre plateforme. Mais globalement, on essaie justement d'avoir cette idée de la plateforme ouverte qui permet à chacun d'exprimer son opinion. Et on travaille aussi bien avec des individus qu'avec des groupes ou des collectifs.
Donc des entreprises.
Et des entreprises aussi. Alors, il y a peu d'entreprises pour l'instant qui lancent des pétitions. Juste, je fais cette précision, mais c'est vrai qu'on a de plus en plus d'acteurs de tout type qui vont utiliser la pétition en ligne pour faire passer des messages. Et c'est vrai que des initiatives comme Zéro Impunity sont des choses qui se font de plus en plus.
Mais dans ce cas précis, vous avez choisi d'être en partenariat avec eux, c'est-à-dire que c'est pas simplement eux qui ont décidé de venir ouvrir des pétitions sur votre plateforme, il y a votre logo sur le projet.
Oui, en effet, parce que ce qui était intéressant pour nous, c'était la globalité de ce projet et cette espèce de mouvement. Nous, ça fait quelques mois qu'on a créé une option qui existe sur notre site qui s'appelle les mouvements. Donc, ça permet de fédérer plusieurs pétitions en ligne ensemble. Ce qu'on a remarqué, en tout cas, nous, notre vision du changement social et sociétal, c'est que souvent, il faut commencer par des petites étapes pour pouvoir changer un système en place. Et ce qui nous intéressait dans ce projet, c'était justement comment on change cette problématique systémique qui est l'utilisation du viol comme une arme de guerre et de répression. Et comment on change ça par différentes petites pétitions, pétitions spécifiques sur différentes thématiques.
Concrètement, au bas de chacun des articles qu'on peut lire sur le site de Zéro Impunity, il y a un appel à se mobiliser en signant une pétition ad hoc, donc liée à ce sujet. Exemple, au pied de l'enquête de Justine sur Sangaris, je peux cliquer sur un lien qui me renvoie vers un appel lancé en vidéo par Marion Guth d'Aban ainsi que Nicolas et Stéphane ici présents.
Je m'appelle Marion et avec Nicolas et Stéphane, nous travaillons depuis plusieurs années comme activistes et documentaristes. J'étais au Rwanda il y a 2 ans et j'ai eu la possibilité de rencontrer des femmes survivantes de violences sexuelles et du génocide. Ce que l'une d'entre elles m'a dit nous a particulièrement touchés.
Pour mettre fin à l'impunité des soldats français accusés de violences sexuelles, c'est le nom donc de cette pétition. Elle est disponible en 7 langues, dont l'arabe, l'allemand, l'anglais et l'espagnol, et a recueilli, toutes langues confondues, plus de 250 000 signatures au moment où nous enregistrons. C'est cela, Sarah ?
Oui, c'est exactement ça. C'est exactement 254 127 signatures.
L'Internet a beaucoup facilité l'utilisation, la création, la signature de pétitions. Certains regrettent le caractère un peu sédentaire de l'activisme face 21e siècle. C'est un vaste débat, nous y reviendrons peut-être, mais ce qui est amusant en tout cas dans le mouvement Zéro Impunity, c'est qu'ils prévoient, ils l'ont dit il y a quelques instants, de faire une sorte de représentation en 3D de la pétition, des signataires, c'est-à-dire des personnes qui marchent. Comment vous accueillez ça?
Justement avec beaucoup d'intérêt, et c'est aussi pour cela qu'on peut parler d'un véritable partenariat avec Zéro Impunity. Nous, ça nous intéressait d'aller au-delà de la signature de la pétition et ces mouvements, comment on les mettait en lumière, comme on les mettait en lumière auprès de nos utilisateurs.
Et l'idée, c'est d'incarner, en fait, donc des signataires, parce que, justement, il y a un côté un peu désincarné dans la signature numérique.
Oui, c'est d'avoir une présence virtuelle, mais sous forme humaine. Et je pense que c'est hyper intéressant de se dire, justement, qu'une personne qui signe une pétition en ligne, même si elle n'est pas dans la rue, elle a une existence physique. Et ce projet permettait vraiment de valoriser ça.
Nicolas ?
La marche virtuelle n'est pas non plus une finalité en soi. Il faut pas se dire, effectivement, la marche virtuelle va venir remplacer le mouvement physique qu'on peut avoir dans la rue ou ailleurs.
Pour se figurer cette marche, c'est donc un décor virtuel, donc une rue redessinée et des personnes qui marchent. C'est le nombre de personnes, donc 250 000, 300 000, correspond à ceux qui ont signé telle ou telle pétition, puisqu'il y en a plusieurs. Il y en a une au moins par sujet.
Si vous voulez, la marche virtuelle, c'est un outil digital d'information du mouvement en temps réel et de manière, effectivement, on va dire, impressionnante. En termes de data visualisation, on prend l'ampleur du mouvement. Et dans cette marche virtuelle, on va avoir aussi les messages, les commentaires, les messages Facebook, Twitter. On va pouvoir cliquer sur n'importe quel endroit pour interpeller François Hollande, si on veut, pour interpeller à la CPI, enfin, etc. Ça devient vraiment un outil viral, mais qui n'a vraiment pas pour but de remplacer les autres actions, dont on pourra peut-être parler plus tard, qui vont même accompagner notre action sur le terrain, quoi.
Stéphane.
Ouais, l'idée c'est aussi de regrouper au sein d'un seul et même endroit tous les participants, toutes les forces vives qui ont participé au projet, parce que les signataires, Sarah pourra le confirmer, viennent d'Italie, d'Espagne essentiellement, de France évidemment, d'Allemagne, des États-Unis, et l'idée là c'est d'avoir un seul et même endroit pour pouvoir avoir toutes ces personnes défilant en même temps. Ensuite, pour rebondir juste ce que tu disais tout à l'heure sur l'aspect sédentaire de la manif, nous on essaye aussi, enfin l'objectif final après de cette manifestation, c'est de quitter l'aspect 3D et virtuel de cette manifestation pour la projeter justement sur les façades d'immeubles de manière justement un petit peu aussi pirate ou activiste. Après, chacun prendra la définition qu'il veut. Mais l'idée, voilà, c'est de projeter cette manifestation sur des lieux symboliques et mythiques de l'engagement par rapport aux violences sexuelles.
C'est ça les autres actions, Nicolas ?
Alors, entre autres, c'est notamment reproduire interpeller l'audience. Là, on ne peut pas manifester ou là, c'est impossible de le faire. C'est ça qui est intéressant. Donc, on les a déjà choisis, des lieux extrêmement spécifiques pour interpeller davantage et pour aller projeter cette marche virtuelle. Et on prévoit aussi encore d'autres actions, des sit-ins, d'être encore physiquement encore engagé.
De rejoindre en fait le concret, ça veut dire de passer du virtuel au concret, ça c'est extrêmement important sur un projet dit activiste. De toute façon, un projet activiste n'a pas de sens s'il n'y a pas de décision politique derrière. C'est ça pour nous, c'est la finalité absolue du projet.
Justine.
Oui, je pense que si l'idée d'une manifestation virtuelle fait sens aussi, c'est parce que c'est un sujet où la question de porter la voix est importante. Et nous, dans les différentes enquêtes qu'on a réalisées, on a rencontré des gens, de toute évidence, Chimène en Centrafrique, qui raconte des faits qu'on pourrait qualifier pénalement de viol en réunion par des soldats français. Elle va pas pouvoir venir à Paris devant le ministère de la Défense. On rencontre ces choses-là dans chacune de nos enquêtes, et donc c'est une manière d'incarner d'une certaine mesure.
Dans ce projet transmédia, comme dans beaucoup de projets, il y a un côté exploratoire, c'est-à-dire qu'on tente de nouvelles choses, on marie des choses qui n'étaient pas mariées par le passé. En guise de conclusion, est-ce que chacune d'entre vous peut partager les conclusions, les enseignements de ce projet qui est encore en cours ? Nicolas ?
C'est l'humain avant tout, parce que c'est à la fois une expérience humaine pour nous tous qui participons au quotidien sur ce projet. Il faut être assez fort, il faut être assez c'est beaucoup d'engagement, c'est beaucoup d'émotions,
ce sont des papiers parfois difficiles à lire. Je pense au papier sur la Syrie le viol des enfants par le régime de Bachar el-Assad.
Exactement. Nous, on a été un peu protégés un peu de ça d'une certaine manière parce que ce sont les enquêtrices qui ont fait ce travail-là, mais nous après en tant que c'est vrai qu'on va l'esthétiser aussi dans le film, et donc on a encore un autre rapport encore avec tous ces éléments-là, et puis toute l'approche aussi militante. Mais c'est vraiment l'humain à tous les niveaux, que ce soit du survivant, de la survivante à nous et à l'audience.
Stéphane.
Pour rebondir sur ce que dit Nicolas, enfin moi j'ai quasiment envie de pleurer quasiment tous les jours sur ce projet, mais véritablement et même là maintenant. Mais pour rebondir voilà ce que disait Nicolas, c'est aussi après d'un point de vue humain, c'est aussi même au sein même de l'équipe ici. Justine nous disait tout à l'heure, il y a des journalistes, il y a des auteurs un peu plus du côté artiste, il y a des partenaires comme Sarah aussi qui sont engagés.
Il y a des dessinateurs, on l'a pas mentionné.
Des dessinateurs,
il y a des illustrations pour tous les articles.
Tout à fait, des illustrateurs. C'est quasiment une équipe, je dirais, au bas mot de 50 à 55 personnes qui travaillent sur ce projet de manière régulière et curieusement presque on s'entend tous merveilleusement bien. Il y a des discussions, et comme disait tout à l'heure Justine, c'est aussi intéressant ça. On a discuté encore hier d'un sujet justement qui était là justement pour questionner le rapport entre le journalisme et le côté un peu plus artiste ou activiste, et on s'entend, on s'écoute, et ça je trouve que c'est éminemment difficile, mais super important sur ce projet, et ça marche.
Justine.
Oui, je confirme, ça marche. Non, mais c'est vrai, il y a une discussion permanente, et je pense que si la question est aussi, est-ce que ce dispositif est transposable, est-ce que ça peut être une nouvelle manière de faire les choses, je pense que oui, mais certainement pas sur tous les sujets, certainement pas avec n'importe quelle équipe. Il y a la notion de confiance qui est très présente. Ça peut paraître un peu violent de vous raconter ça comme ça avec de l'émotion dans la voix, mais je pense que c'est vrai. Parfois, on le dit de manière un peu creuse, c'était une aventure humaine, etc. Mais pour de vrai, c'était quelque chose comme ça. Après, sur les enseignements, je pense que il y a deux aspects. Sur le sujet lui-même, je pense que en tant que journaliste, il y a vraiment une vraie vertu d'avoir travaillé en collectif et d'avoir pris conscience de mécaniques communes sur la question des violences sexuelles, sur des terrains pourtant très éloignés. Et ça, je pense que c'est aussi réplicable sur d'autres types d'enquêtes, et ça apporte énormément de choses d'un point de vue de la compréhension.
Ce sont les avantages d'une rédaction en général, non ?
Oui, mais par exemple, chez RFI, je pense que vous parlez pas de vos sujets en commun à tous les petits déjeuners, tous les déjeuners, tous les dîners, avec des questions très précises sur mais comment tu fais pour interroger tel type de personne, et comment tu fais parce que telle institution me fait barrage, etc. Donc certes, c'est les avantages d'un travail en commun, mais de manière quand même un petit peu plus spécifique et plus intense, parce que c'était par ailleurs sur 2 mois. Et puis ensuite, ça pose énormément de questions, et ça apporte énormément de choses sur la la question de l'engagement et en tant que journaliste, la question de son rapport au militantisme. Moi, je le disais tout à l'heure, on est toutes dans l'équipe, on est toutes des journalistes professionnels. Je pense qu'on se définirait pas comme, enfin, on vit pas notre métier comme un métier militant à 100% en permanence. Mais travailler avec des gens qui peuvent s'emparer de cette matière-là pour en faire autre chose, ça interroge beaucoup et ça apporte beaucoup. Et on se questionne sur la manière de faire passer les messages, parce que le journalisme, c'est pas que raconter des choses, c'est aussi peut-être réfléchir à des manières de raconter des choses qui puissent permettre à d'autres de s'en emparer pour changer, pour faire des recommandations, des choses comme ça. Et surtout, ça amène à se dire que de toute façon, il faut pas se faire d'illusions. Comme journaliste, la plupart du temps, on écrit des choses parce qu'on a envie de les changer. Donc là, c'est peut-être juste le faire de manière plus explicite.
Le mot de la fin, Sarah, pour change.org.
Moi, ce que je trouvais vraiment intéressant dans ce projet, en fait, c'est justement comment il permet différents niveaux d'engagement. Je pense que tous les Français ne liraient pas une enquête aussi longue et fouillée que celle que vous avez pu faire. Mais par contre, via la pétition en ligne, en fait, bien sûr, il y a un rôle de changement, il y a un rôle d'activisme et d'action, mais il y a aussi un rôle de sensibilisation. Et voilà, de se dire qu'il y a 250 000 personnes qui ont signé une pétition sur un sujet si technique que sont les violences sexuelles exercées par l'armée dans le cadre d'une opération militaire. Enfin, on peut voir aussi l'intérêt du point de vue médiatique de ce genre d'action en ligne et d'activisme. C'est, voilà, j'aime pas le mot vulgarisé parce que je trouve que c'est réducteur, mais en tout cas être inclusif en fait dans l'approche de ces sujets-là. Et ça, c'est ce que je trouve vraiment intéressant dans ce projet.
Merci à toutes, à tous d'être venus ici au micro de l'Atelier des médias. À suivre pour votre projet Zero Impunity, deux enquêtes mises en ligne sur votre site les 15 et 27 mars. La marche 3D disponible elle aussi, je crois, le 27 mars. Et fin 2017, septembre 2017, un film d'animation documentaire qui a pour titre tout simplement Zero Impunity. Infos et liens sur atelier.rfi.fr et sur zeroimpunity.com. L'Atelier des médias cette semaine était signé Constance Léon, Marie-Stéphanie Servos, Camille Deloche, Simon Decreuse et Ziad Malouf. Notre podcast est à retrouver sur toute bonne application. J'utilise pour ma part Castbox dans sa version Android et gratuite. N'hésitez pas à nous commenter, notamment sur la plateforme iTunes. C'est malheureux, mais c'est encore une des seules manières de faire connaître un podcast radio. Salut à toutes et à tous. When things go wrong, we still be strong. No matter what they bring, we'll still be here. 'Cause when things go wrong, we still be strong. Keep your eyes on the road.